Bon, voilà. Donc on va commencer. Du coup, je me disais, comme ça, en réfléchissant, que je me retrouve à clore ce cycle de cours en psychologie, voilà, du fait de l'annulation du cours de demain, et que c'était assez singulier de clore quelque chose en même temps qu'on développe la question de la naissance et de quelque chose qui s'ouvre à la vie. Voilà, donc, mais il me semble que c'est de ce paradoxe-là dont je vais vous parler ce soir, en fait, de comment finalement la naissance est à la fois une expérience de vie et de mort. Et je vais essayer de développer cette question-là. Alors, à travers un titre qui parle avant tout du devenir mère, alors je me suis dit qu'après coup, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très nombreux ce soir, que le devenir mère, c'était un peu restrictif d'intituler mon intervention de cette façon-là, enfin, parce que je ne parlerai pas que des femmes ou que des mères, et que bien sûr mon propos, il vise à essayer d'expliciter en quoi cette période qu'on appelle la grossesse, hein, donc celle du devenir mère, elle concerne évidemment avant tout la femme, puisque c'est elle qui est dans son corps touchée par cette problématique de la grossesse, mais qu'elle concerne aussi le futur père, évidemment, qu'elle implique aussi une dynamique de couple et qu'au-delà de ça, elle rencontre la question de la famille et de l'organisation familiale. Donc, même si c'est effectivement une question qui touche en premier lieu les femmes, parce que, encore une fois, c'est dans leur corps que la grossesse s'ancre, on va dire, bah, c'est pas très heureux comme expression, pour autant c'est une problématique qui concerne tout un chacun, tous les êtres humains, à mesure où ils sont nés un jour et où, pour certains en tout cas, peut-être la plupart, ils deviendront des parents. Voilà, alors mon titre du coup comporte aussi peut-être certaines contradictions, enfin je ne sais pas si ça apparaît comme des contradictions pour vous, mais il y a l'idée de faire cohabiter la notion de grossesse avec celle de crise, qui peut-être ne va pas de soi pour vous, en tout cas qui sera sans doute à expliciter dans mon intervention, et puis évidemment le lien qui peut exister entre la grossesse et l'adolescence, et en cela mon intervention s'inscrit dans la suite logique de celle de Jean-Baptiste Desvaux que vous avez sans doute entendu la semaine précédente. Donc j'essaierai de m'articuler avec aussi son intervention pour vous montrer en quoi la grossesse, le devenir mère et le devenir parent, hein, parce que le devenir père aussi, hein, évidemment, implique, touche à la question de l'adolescence et est susceptible de remanier des enjeux psychiques qui n'avaient pas été développés, on va dire, ou auxquels le sujet n'avait pas pu se confronter pendant sa période d'adolescence, et que le moment où il devient parent, alors a fortiori le moment où la femme devient mère et évidemment aussi où l'homme devient père, c'est aussi une occasion pour lui, pour elle, pour eux, de remobiliser des aspects psychiques qui avaient été mobilisés à l'adolescence, à la fois dans une perspective d'intégration, hein, c'est pas toujours, quand les aspects psychiques se remobilisent, c'est aussi dans un souci qu'ils soient intégrés au fonctionnement psychique. Mais ça peut être aussi un moment et une période de crise qui peut être un moment de fragilisation du sujet et qui peut l'amener à décompenser. Alors, on a vu la semaine dernière que l'adolescence, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu maintenant dans nos sociétés, l'adolescence était un moment de crise assez majeur pour l'individu, pour le jeune sujet, et que évidemment c'est une période, on l'a peut-être pas dit la dernière fois, mais qui est du fait de la fragilisation que ça implique et pour toutes les raisons qu'on a explicitées la dernière fois, c'est une période qui connaît de nombreux cas de décompensation psychique, hein, c'est-à-dire la décompensation, c'est des états psychiques qui décompensent, c'est-à-dire où les sujets ne parviennent pas à se réorganiser autour de la crise qui les touche et qu'ils développent des psychopathologies diverses à l'endroit de la crise qui les atteint. Là où ils auraient pu remobiliser des aspects de leur fonctionnement pour grandir et pour maturer, eh bien, ça, c'est des éléments qui peuvent être des éléments de désorganisation plus que d'organisation. Voilà, donc je ne sais pas si vous le savez ou si vous avez à l'esprit cette question-là, mais c'est aussi le cas pour la grossesse, et souvent, d'autant plus le cas quand c'est une première grossesse. Vous connaissez peut-être ou pas la forte probabilité qu'il existe pour les femmes d'avoir des décompensations psychiatriques au moment de leur grossesse ou au moment de l'accouchement. Alors les décompensations peut-être les plus connues et les moins graves, encore que il y a tout un éventail, toute une palette d'expressions de ce trouble, c'est la question du postpartum, la dépression du postpartum. Alors bon, la seconde expression la plus légère, on va dire, c'est le baby blues, hein, mais la dépression du postpartum, ça peut être quelque chose d'assez grave, et évidemment, ça va jusqu'à des décompensations plus graves du côté de la psychose, qu'on appelle des psychoses puerpérales, qui sont pas nécessairement des décompensations qui vont être définitives, hein, mais en tout cas, on voit comment, pour le psychisme d'un individu, la grossesse, la naissance, ça peut mettre en crise son fonctionnement psychique de façon telle qu'il y a des désorganisations importantes qui s'imposent à lui. Elle, en l'occurrence, puisque le sujet, c'est une femme. Mais ça touche pas seulement les femmes, parce qu'on observe aussi chez les hommes, les futurs pères, des manifestations de cet ordre-là, alors qu'ils sont peut-être pas aussi massives, mais on peut observer des décompensations chez les futurs pères. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire déjà le point commun qui pouvait exister entre cette question du devenir parent, devenir mère, devenir père, la grossesse, l'accouchement, la naissance, avec la période de l'adolescence. Et évidemment, là, on est loin, enfin, cette réalité psychologique, voire parfois psychiatrique, est loin d'une réalité qu'on nous décrit par ailleurs ou qu'on tend à véhiculer dans les représentations autour de la grossesse et de la maternité, qui sont des représentations plutôt idylliques, voire idéales, d'une grossesse merveilleuse, d'une femme qui porte un ventre rond et rebondi, qu'elle peut afficher sans honte. En général, les représentations qui sont véhiculées autour de cette femme enceinte sont des représentations d'une femme belle, épanouie, qui associe sans difficulté sa féminité avec sa maternité en processus, on va dire en devenir. Une femme, évidemment, qui n'a ni vergeture, pas de cellulite, qui n'a pris du poids que dans son utérus et pas ailleurs, ou un petit peu dans sa poitrine aussi, parce que ça... C'est un argument de séduction important. Voilà, une femme qui porte un ventre de façon tout à fait épanouie et qui véhicule des représentations plutôt d'une côté d'une certaine béatitude ou d'une période de sa vie qui serait fortement épanouissante pour elle. Alors évidemment, ce que je viens de décrire auparavant du côté de la décompensation. Parfois des compensations du côté de la psychopathologie grave, hein, comme la psychose, pas que, mais quand même, ça nous montre qu'il y a un revers assez important à cet idéal qui est véhiculé, et que la grossesse et devenir parent en général, c'est pas une épreuve qui va de soi, que ça met l'individu en crise, et ça met le couple en crise, ça met la famille en crise. Et c'est à risque psychique pour les individus, le couple et la famille. Alors, pour essayer de développer ce que je viens de vous dire, je vais me centrer d'abord, puisque c'est quand même d'elle dont il s'agit en premier, je vais d'abord me centrer sur ce qui se passe pour la femme. Ensuite, je développerai comment on peut voir en quoi, chez l'homme aussi, cette question de la crise est mobilisée. Et puis, brièvement, on évoquera les points qui concernent le couple et la famille, même si, de ce que je vous dirai de la crise chez la femme et chez l'homme, on pourra aussi tout à fait déduire les crises potentielles dans le couple et dans la famille. Alors, chez la femme, la crise... elle est d'abord liée au fait, et là, ça, effectivement, il y a un point important de rapprochement avec le processus adolescent, hein, la crise, elle est liée au fait que la grossesse, c'est un phénomène corporel. Ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais c'est très important de pointer quand même qu'une grossesse, c'est avant tout un changement corporel fort, qu'on ne rencontre pas par ailleurs dans sa vie, ou rarement, enfin, ça arrive à très peu d'individus d'être amenés à prendre entre une dizaine ou une vingtaine de kilos en quelques mois. C'est assez exceptionnel. Donc, et de voir son corps se modifier de cette façon-là, sachant que le corps il se modifie pas qu'en apparence, hein, il y a tout un tas de modifications internes, hein, il y a ne serait-ce que le volume du sang qui augmente, la cage thoracique qui s'écarte, le bassin qui s'écarte aussi. Enfin, très concrètement, dans le corps d'une femme, c'est une espèce de petite révolution qui naît au moment, enfin en tout cas qui commence à se déployer au moment où elle tombe enceinte. Alors ça, c'est sans parler des effets immédiats que ça a sur ses ressentis corporels, quand on pense aux nausées par exemple, ou même à des envies irrépressibles de dormir, comme c'est très fréquemment le cas aussi chez les femmes enceintes. Tout ça, voilà, ça a un effet, donc la grossesse a un effet dans le corps et ça affecte directement le sujet qui est touché par ces modifications. Et là où effectivement il y a un lien assez évident à faire avec l'adolescence, c'est que l'adolescent, on l'a rappelé la dernière fois, lui aussi est affecté par ce type, alors pas tout à fait les mêmes, hein, mais ce type de modification corporelle. Il a affaire à un corps qui change, qui pousse en général, qui se modifie. Alors, sauf que les changements corporels que les adolescents connaissent en général, ils sont plus diffus, ils ont lieu sur une période beaucoup plus étendue que les 9 mois de la grossesse. Voilà, donc on pourrait dire que déjà sur le plan de ce qui est mobilisé dans le corps, la grossesse est un moment de la vie psychique et corporelle d'un sujet, en l'occurrence d'une femme, qui remobilise potentiellement toutes les angoisses qu'elle a pu vivre au moment de son adolescence et au moment des changements corporels qu'elle-même a dû subir pour passer du statut de petite fille à jeune fille, jeune femme. Voilà, la grossesse est aussi assimilable à l'adolescence du point de vue du processus qu'elle permet d'engager. C'est une période transitoire en fait entre deux états. Comme l'adolescence est une période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, la grossesse est une période transitoire entre la femme, jeune femme et la mère qu'elle deviendra ensuite. Donc en cela, on peut faire des rapprochements avec l'adolescence qui est donc une période de transition et qui est une période qui a une visée, qui doit permettre que des changements psychiques importants se fassent et que l'individu puisse se préparer à son futur état de façon suffisamment sereine. Alors, j'avais une pensée là, je repensais, peut-être vous le connaissez ce sketch, je pensais au sketch de Florence Foresti qui s'appelle Motherfucker, qui porte bien son nom. Je vous invite vraiment à aller le regarder si vous ne le connaissez pas, parce qu'elle fait état de façon très très fine, et on est très loin justement des clichés qui sont véhiculés autour de cette image idéale de la grossesse et de la maternité. Elle fait état de ce que c'est qu'être une femme enceinte de nos jours. C'est assez subtil, ou pas toujours, mais en tout cas ce qui est subtil c'est la finesse psychologique avec laquelle elle appréhende les choses, et elle dit très bien ce que c'est que le vécu interne d'une femme enceinte, et elle fait état notamment de toutes les angoisses corporelles que ça peut mobiliser. Et elle dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle met en scène d'ailleurs un espèce de lapsus dans son sketch, où elle fait un lapsus au sujet de l'accouchement entre la boucherie et le bonheur, où elle va pour dire que c'est une véritable boucherie, et elle s'interrompt et se corrige en disant que c'est un véritable bonheur. Et elle dit comme ça que finalement, les femmes enceintes et voire les jeunes accouchées ont comme d'une certaine manière signé une charte qui les engageait au secret à l'égard de toutes les futures mères qu'elles allaient croiser, et le secret étant de ne pas divulguer justement le secret ou la réalité de cette épreuve corporelle qui est la grossesse et l'accouchement. et que voilà, il faut véhiculer des idées positives, et elle-même pouvant faire état de son interrogation en tant que jeune femme qui n'était pas encore concernée par la maternité, de ce flou qui pouvait exister quand on questionne alors sa mère, sa sœur, enfin des femmes qui ont déjà vécu cette expérience, ce flou qui pouvait exister dans la manière dont elles peuvent transmettre leur expérience, et où au final la conclusion c'est toujours que c'est un véritable bonheur. Et effectivement, elle dit que si on disait la vérité, des spécialistes auraient calculé que l'humanité s'éteindrait en 50 ans. Voilà. Donc voilà, elle le dit de façon beaucoup plus drôle, et elle décrit très très bien, je trouve, tous les vécus corporels, de ce que c'est que d'avoir un bébé à l'intérieur de soi. Parce que au-delà des changements corporels que la grossesse implique, ce qu'il y a d'encore plus étrange et d'encore plus anxiogène dans le fait de porter un enfant et de concevoir un enfant, c'est qu'il va falloir pendant 9 mois abriter cette progéniture à l'intérieur de soi. Et ça, c'est fondamentalement angoissant, parce qu'en fait, à la fois c'est la chose la plus vieille qui soit, enfin en tout cas qui est contemporaine de l'humanité, on va dire, et en même temps, donc ça paraît naturel, hein, c'est d'ailleurs ce que nous dit Florence Foresti dans son sketch, et en fait ça va pas de soi du tout, quand bien même c'est naturel, ça va pas de soi, et psychiquement c'est une drôle d'expérience, cette expérience d'abord que le sujet, l'être en devenir qu'on porte à l'intérieur de nous, et ben à la fois c'est un autre, et en même temps c'est une espèce de continuité narcissique de soi, parce que pour l'instant, tant qu'il n'est pas viable et qui ne respire pas de façon autonome, et ben il dépend de sa mère et de tout un tas de choses à l'intérieur d'elle pour qu'il puisse vivre. Donc c'est dans les vécus des femmes enceintes qui est particulièrement étrange dans l'expérience qu'elles peuvent, dont elles peuvent témoigner, c'est que cet être-là, à la fois, c'est comme un organe supplémentaire, hein, quelque chose comme ça, un organe qu'on aurait en plus pendant 9 mois, qui, en tout cas, qui a pas, voire peu d'autonomie, et qui, donc, en même temps, donc, est vécu dans une forme d'indifférenciation vis-à-vis de soi, hein, et en même temps, on a bien la conscience que cette organe, entre guillemets, supplémentaire, là, qui vient s'ajouter à nous, qui vient de l'intérieur sucer notre sève, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et bien cet individu-là, c'est aussi un étranger. Et je crois que la difficulté essentielle liée à la grossesse et à ce phénomène-là, c'est qu'il faut faire avec cette double. Ce double aspect, à la fois d'avoir à l'intérieur de soi comme un double de soi, une continuité de soi, et en même temps de porter une radicale étrangeté à l'intérieur de soi. Un être qui déjà, bien qu'il ne soit dans la réalité pas autonome et qu'il soit en cours de formation, eh ben, il porte déjà une forme d'altérité, et il porte, on peut lui attribuer des pensées, des désirs, voilà, une intentionnalité. Ce qui n'est pas nécessairement la réalité, mais en tout cas, voilà les projections qu'on peut faire sur un fœtus. Et alors, du coup, ce qu'on peut observer chez les femmes, c'est un vécu parfois d'aliénation, hein, ce qu'on retrouve bien d'ailleurs dans les images de science-fiction. Je pensais au film de Ridley Scott, là, Alien, enfin, un des aliens fait par, enfin, en l'occurrence, celui-ci est réalisé par Ridley Scott, je crois que c'est le 8, je sais plus. Le 6 ? J'ai pas vérifié, j'avoue. J'aurais dit le 8 comme ça, mais bon, dans le public, on me dit le 6 peut-être. C'est dans le premier ? Bon, voilà, donc j'invite les gens qui nous écoutent aussi sur Internet à aller vérifier. Voilà, en tout cas, un alien tourné par Ridley Scott, où effectivement on voit bien ces représentations d'un être monstrueux qui sort, qui transperce, hein, c'est la cage thoracique ou le. Peut-être on en parlera après, non ? Bon, il y a déjà des interruptions.
Dans le genre, il y avait aussi. Il y avait une femme enceinte, j'imagine, en train d'accoucher d'une sorte de verre
Oui, mais en fait, globalement, les films de science-fiction souvent tournent autour de cette problématique-là, et donc on voit bien comment c'est des métaphores, mais que du coup la question de l'angoisse liée à la grossesse, elle peut pas être traitée comme telle, et qu'elle a besoin finalement de se déplacer et d'être traitée, voilà, de façon métaphorique sur d'autres scènes, parce qu'on peut pas le dire de façon aussi vrai ou cru, on pourrait dire. Donc on a besoin de trouver des supports et des images qui nous permettent de métaphoriser ces angoisses liées à l'enfantement. Alors, donc voilà, ça c'était pour les références culturelles, il y en a beaucoup d'autres. Je pensais à ça parce que c'était la réunion de la thématique de l'alien avec la problématique de la grossesse qui me paraissait intéressante à souligner, mais évidemment il y a beaucoup d'autres références sur cette thématique-là. Concernant la femme et son vécu corporel, là je viens de vous signaler un petit peu ce qui est particulièrement anxiogène dans le fait d'être enceinte et de porter un enfant à l'intérieur de soi. Alors ça, c'est pour ce qui est mobilisé du côté du vécu corporel. Bien que les vécus corporels soient source d'angoisse sur le plan psychique, il y a d'autres éléments auxquels on peut s'intéresser qui mobilisent tout autant d'angoisse. J'allais dire sinon plus, mais en fait, je ne suis pas sûre qu'il faille comparer ces deux plans-là. C'est des aspects plus intrapsychiques, on va dire, qui sont du côté de la grossesse comme un événement de la vie d'un individu, d'une femme, qui remobilise tout un tas d'enjeux psychiques, notamment du côté de sa sexualité infantile et de l'organisation oedipienne. Alors bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le complexe d'Oedipe, néanmoins je pourrais vous en dire quelques mots, vous en avez une connaissance j'imagine au moins approximative. L'objet de mon propos, c'est pas de développer cette question-là ici ce soir. Enfin, je peux vous renvoyer peut-être à ce qu'on en a dit la semaine précédente, un petit peu dans l'intervention de Jean-Baptiste, ou ce que j'en ai dit aussi l'année dernière dans mon intervention. Je sais pas si elle est encore sur Internet, mais voilà. C'est l'idée que tout enfant, garçon ou fille, dans son développement, voit à un moment de son développement, qu'on situe entre 3 et 6 ans, mais ce qui est ce qui est juste une manière de situer les choses, parce que les vous le verrez d'ailleurs dans ce que je vais dire, les enjeux psychiques autour des enjeux oedipiens, eh bien, ils sont mobilisés tout au cours de la vie, et c'est bien pour ça que je veux faire le lien avec la grossesse et le fait de devenir parent. Donc la pulsion sexuelle, elle est de l'enfant, elle se dirige d'abord et avant tout à l'endroit de ses parents. Dans la forme, on va dire, simple du complexe d'Oedipe, c'est la formule classique du petit garçon qui est amoureux de sa maman et qui entre en rivalité avec son papa, et inversement pour la fille. En réalité, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on s'aperçoit que les enfants développent aussi des désirs envers le parent du même sexe et de la rivalité envers le parent de sexe opposé. Toujours est-il que à ce moment-là de leur développement, donc les enfants vont voir leur pulsion sexuelle s'adresser évidemment à leurs parents, et les parents normalement leur opposent un interdit qui est celui de l'interdit de l'inceste. Et donc la pulsion sexuelle va être réprimée à ce moment-là, hein, en tout cas autour de l'objet auquel elle s'adresse, et l'enfant va être amené à déplacer ses investissements libidinaux vers d'autres objets avec qui un commerce sexuel pourra avoir lieu. Et ça, c'est les enjeux de l'adolescence. Puisqu'on a vu la semaine dernière que ce qui est particulièrement angoissant quand on devient adolescent, c'est que tout d'un coup, on devient l'égal du parent, c'est-à-dire que corporellement, on devient un adulte, et que ça remobilise évidemment toute la question des désirs oedipiens, dans la mesure où on devient un adulte capable d'être en rivalité avec le père ou avec la mère, et capable potentiellement de séduire et d'avoir un commerce sexuel avec le père ou la mère. C'est ça qui est extrêmement anxiogène pour les adolescents, et évidemment qui est remobilisé aussi dans la période de la grossesse, dans la mesure où, alors pour les femmes, hein, la version féminine du complexe d'Oedipe, même si là je vous le fais de manière très simplifiée, c'est que donc, tout enfant va développer à l'égard de ses parents une forte envie qui tient au fait que le parent est dans son esprit détenteur d'une puissance. Cette puissance, elle est liée au fait qu'il y a une différence, essentiel entre le parent et son enfant, c'est que le parent, il est adulte, autonome, il gère sa vie tout seul, normalement, et l'enfant, lui, il est dépendant, dépendant notamment de ses parents, et il n'est pas autonome, de fait. Donc, il va développer une forte idéalisation à l'endroit de ses parents, évidemment, qui sont des êtres, d'une certaine manière, et à ses yeux, un peu tout-puissants. Hein. Alors, c'est l'image qu'on peut retrouver, par exemple, dans les contes de fées de l'ogre ou de la sorcière ou de la fée. Enfin, ces figures comme ça, un peu à la fois monstrueuses et en même temps idéales, qui sont porteuses de tout un tas de pouvoirs et auxquelles les enfants se confrontent, d'ailleurs, dans les contes de fées. Alors, les enfants donc développent une envie à l'endroit de ses capacités parentales qui portent essentiellement ces capacités autour de leurs organes génitaux. C'est l'idée que le parent est porteur d'une puissance, une puissance liée au fait qu'il peut donner la vie et il peut créer la vie. Et même, il peut la retirer. Dans l'esprit des enfants, souvent, il y a la crainte que les parents ne puissent exercer sur eux une rétorsion telle, quand ils ont été sots, par exemple, quand ils ont fait des bêtises, qu'ils ne leur retirent la vie, puisqu'après tout, ils la lui ont donnée, ils peuvent aussi la retirer. C'est pas vrai dans la réalité, mais c'est un fantasme très actif dans l'esprit des enfants. Et un fantasme qui vise à montrer cette différence qui existe et la soumission dans laquelle se trouve l'enfant à l'égard de son parent. Et quand on se sent soumis, on se sent aussi potentiellement victime de tout un tas d'abus, en tout cas de la force de l'adulte et de sa puissance. Alors évidemment, dans la période oedipienne, c'est aussi la période à laquelle l'enfant, ou en tout cas les pulsions sexuelles, vont s'organiser autour des zones génitales. Et donc c'est pour ça que les enjeux de puissance parentale vont être interprétés par les enfants du côté de leurs organes génitaux. Et on va observer des phénomènes, alors à la fois d'envie, hein, puisque l'enfant va chercher pas dans la réalité, mais il va développer tout un tas de fantasmes autour de l'appropriation des organes génitaux des parents qui sont les symboles de leur puissance procréatrice. Avec tout un tas de craintes aussi liées à cette envie d'appropriation. Ce que Freud décrira sous le terme de l'angoisse de castration dont on a parlé la semaine dernière. Alors tout ça pour vous dire quoi ? Que du coup, effectivement, si on se place du point de vue de la petite fille, elle va évidemment, alors comme le petit garçon, tous les deux vont mutuellement envier le ventre maternel porteur de la vie et de la puissance du phallus maternel et les organes génitaux du père qui sont également porteurs d'une dimension phallique du côté de la transmission de la vie. La petite fille, alors parce qu'il faut aussi dire qu'à ce moment du développement de l'enfant, c'est aussi un moment où il découvre la différence des sexes et que cette différence des sexes, il va avoir tendance à l'interpréter dans les premiers temps dans une logique de domination ou dans une hiérarchie, enfin, dans une logique de hiérarchie, c'est-à-dire que ce que Freud décrit en termes de phallique châtré, hein, c'est-à-dire qu'il va interpréter la différence, non pas comme il y a des différences, mais elles sont complémentaires, et puis l'un peut avoir quelque chose que je n'ai pas, mais du coup c'est pour ça que je vais m'intéresser à lui ou à elle, mais pas pour me l'approprier, et pas parce que ça, c'est le signe que moi je n'ai rien, mais bien parce que je suis curieux de sa différence. Alors ça, c'est théoriquement ce à quoi on accède une fois qu'on est devenu adolescent et qu'on a compris que la différence, c'est pas, elle se traite pas en termes de en avoir ou pas. Mais le petit enfant, qui est dans la phase phallique, comme on dit, lui, il traite la différence des sexes telle qu'il l'observe. Ce qu'il observe concrètement, c'est qu'il existe un organe génital masculin qui est proéminent, et puis l'organe génital féminin, il est à son regard, il est absent. Et donc il l'interprète en termes de « il y a quelque chose et il n'y en a pas ». Et lui, évidemment, cette interprétation, on va dire qu'elle... Il l'a... se dit pas comme ça. J'allais dire, il la retourne sur lui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait juste de le dire comme ça. Mais cette interprétation, il se l'applique à lui-même et à son corps propre. Et il va avoir tendance à interpréter aussi la différence des sexes et la différence entre lui et ses parents comme les parents sont dotés d'un phallus que je n'ai pas moi. Moi, je suis petit, châtré. Les parents sont grands et puissants et porteur d'un phallus que je n'ai pas. Et donc, les enfants vont développer, ce que je disais déjà, une envie à l'égard de cette puissance parentale et développer tout un tas de fantasmes autour des conditions d'appropriation de ces organes génitaux parentaux qui sont tellement enviés. Et pour la petite fille, les choses vont se faire de la sorte, c'est que voilà, elle envie le phallus maternel, le gros ventre qui s'érige et qui est porteur de la vie, et elle a bien compris que elle pouvait obtenir ce gros ventre-là du père, en tout cas en cherchant auprès du père à obtenir son phallus à lui, et par le biais du phallus du père, obtenir le phallus de la mère. Vous me suivez ? C'est-à-dire obtenir un bébé du père. Ça, c'est dans le fantasme. Évidemment, je vous l'ai dit, ça reste de l'ordre du fantasme, puisque normalement, quand les choses se passent bien pour l'enfant, l'interdit de l'inceste vient barrer la réalisation potentielle de ces fantasmes. Néanmoins, ces fantasmes, ils sont actifs dans la vie psychique de tout sujet, et évidemment, ils sont réactivés de manière très forte au moment de la première grossesse. Donc je vais dire tout ça pour ça, pour en venir à parler de ce moment-là de la grossesse et en quoi justement la grossesse elle peut être anxiogène. Elle est anxiogène aussi du fait au moment où la femme tombe enceinte, il y a tous ces fantasmes infantiles qui sont réactualisés, et notamment tous les désirs oedipiens et donc incestueux d'obtenir du père un bébé. Voilà, donc en cela, ça peut être une période extrêmement angoissante. C'est souvent la première grossesse, hein, qui est un moment particulièrement anxiogène par rapport à la réactualisation des fantasmes oedipiens, même si cette question-là est toujours contenue dans toute grossesse. Mais on se rend bien compte que, par exemple, certaines questions d'infertilité peuvent être liées à ces problématiques-là, c'est-à-dire au risque d'actualisation d'un fantasme incestueux qui est tel que mieux vaut pas être pas tomber enceinte ou pas pouvoir réaliser ce désir d'enfant, parce que ça serait réaliser le désir d'avoir un enfant du père. Alors voilà, évidemment, si Freud parle du complexe d'Œdipe, c'est pas pour rien qu'il l'appelle comme ça, c'est parce qu'il fait référence au mythe d'Œdipe que vous connaissez tous, j'imagine, dans lequel les vrais parents d'Œdipe ont connaissance d'un oracle qui leur dit qu'effectivement, l'enfant qu'ils mettront au monde tuera son père et possédera sa mère. C'est pour ça qu'Œdipe est abandonné et que du coup, il réalise la prophétie innocent. De la connaissance, en tout cas, des liens qui l'unissent à la fois à cet homme, Laios, qui tue, et à cette femme, Jocaste, qui l'épouse. Ça me permet de vous amener à une autre question. C'est la question qui est impliquée, enfin qui est comprise dans cette question de l'Œdipe, c'est la question des fantasmes de mort qui sont aussi réactualisés au moment de la grossesse. Alors l'idée, c'est comme ça que j'avais commencé cette intervention ce soir, c'est l'idée que donner la vie implique la mort et met en risque, en tout cas active de manière très importante, les angoisses de mort de la femme, enfin, de la future mère, mais aussi du futur père, évidemment. En l'occurrence, là, on parle de la mère, donc je vous décrirai plutôt sous cet angle. Dans l'oracle tel qu'il est énoncé aux parents d'Œdipe, il est dit que Œdipe tuera son père. Mais évidemment, le fait d'avoir un enfant, de mettre un enfant au monde, symboliquement, tue les parents. On va le dire de manière un peu floue, et je vais m'en expliquer. Tue les parents. Alors de quels parents il s'agit ? Et là, on va voir qu'il y a toute la problématique familiale que j'annonçais tout à l'heure et du coup transgénérationnelle qui peut être abordée. Tue les parents, de quels parents s'agit-il ? Et il y a d'abord la question des parents des futurs parents. Puisque devenir parent, c'est prendre la place de ses propres parents. Et c'est rendre ses propres parents grands-parents. Donc c'est pour le dire comme ça, les pousser vers la tombe. En tout cas, c'est faire bouger les générations. C'est passer d'une place à une autre, et donc faire bouger les autres d'une place à une autre. C'est donc destituer symboliquement les parents d'une place dans laquelle ils étaient jusque-là, un peu, ils étaient idéalisés et tout-puissants dans la représentation de l'enfant, et c'est chercher à s'approprier cette place idéalisée et de toute-puissance, et en même temps destituer les parents de cette place-là et de cette puissance-là. Alors effectivement, tomber enceinte, on se rend compte que les femmes, quand elles tombent enceintes, ce qui les angoisse de façon massive, c'est cette responsabilité qu'elles ont à l'égard d'un être en devenir qu'elles portent à l'intérieur d'eux, et dont elles se sentent responsables, et dont surtout elles ont l'idée, alors qui est parfois encouragée par les recommandations médicales et même la surmédicalisation de la grossesse, en tout cas c'est l'idée que la moindre respiration dans un air pas tout à fait stérile pourrait avoir des effets catastrophiques sur le bébé, voire le tuer. On se rend compte que les femmes, à partir du moment où elles tombent enceintes, elles ont une pensée, une représentation accrue de la mort, alors que ce n'est pas nécessairement une représentation qu'on a au quotidien dans sa vie, mais tout d'un coup, devenir enceinte implique le fait qu'on va donner la vie, et que donc, on pourrait aussi, volontairement ou pas, évidemment la plupart du temps involontairement, donner la mort. Donc ça place les sujets, et particulièrement les femmes, dans une position de toute puissance qui est particulièrement angoissante. Parce que même si on rêve tous un jour de pouvoir avoir le phallus et de pouvoir faire ce qu'on veut avec, et surtout avoir une puissance telle qu'on domine les autres, le jour où on l'obtient, eh bien c'est sacrément angoissant. Je vous renvoie encore une fois à un film qui est assez rigolo, qui s'appelle Bruce Tout-Puissant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui met en scène cette question-là de façon assez humoristique, où c'est un homme, j'ai oublié le nom de l'acteur, Jim Carrey, merci. C'est un homme qui prend les pouvoirs de Dieu, et en fait on se rend compte que c'est extrêmement compliqué d'être Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça, on peut penser, que les êtres humains se sont fait une représentation et se sont construits une histoire autour des raisons qui font que les femmes ont des douleurs à l'accouchement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut penser qu'il y a comme une culpabilité à devenir, particulièrement à devenir parent, mais enfin, surtout à être mère et à enfanter. Je m'explique. Je pense là, évidemment, au mythe de la Genèse, dont je vais parler comme d'un mythe après. La question de la croyance dans cette histoire-là, ça regarde tout un chacun. Mais traitons de cette histoire comme d'une histoire qui nous raconte c'est d'avoir voulu croquer la pomme et d'avoir fait croquer Adam, mais c'est la femme qui est rendue responsable d'une connaissance qu'elle voulait avoir, d'avoir croqué l'arbre de Dieu, enfin d'avoir accédé à l'arbre de Dieu, l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance, et c'est donc pour ça que la femme, elle est condamnée à enfanter et dans la douleur. Donc il y a bien l'idée là dans cette petite scénette, l'idée que les femmes, du fait d'accéder symboliquement à un pouvoir que les êtres humains n'attribuent qu'à Dieu, celui de donner la vie, un pouvoir démiurgique on pourrait dire, du fait d'être en position d'accéder à ce pouvoir-là, eh bien elles ont à être punies, et il y a une certaine culpabilité à pouvoir accéder à cette place-là que les êtres humains trouvent tellement complexe, cette place de la toute-puissance, qu'ils l'ont déléguée à un dieu ou à des dieux. Alors j'avais une petite citation que j'ai trouvée assez intéressante qui dit ça. C'est un proverbe yiddish qui dit « Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mer ». Voilà, ça dit bien cette question-là, et ça dit bien combien ça peut être aussi une expérience extrêmement culpabilisante pour les individus que de devenir parents, parce qu'à un moment donné, ça les confronte à la question de la toute-puissance, et la toute-puissance est avant tout à l'heure. Celle des parents qu'on a idéalisé enfant, mais aussi l'idée de transmettre la vie, qui est une idée folle, on peut le dire comme ça, c'est une idée folle de transmettre la vie, de créer la vie, Et il y a en cela beaucoup de culpabilité associée à cet acte. Alors évidemment, je disais quelques mots tout à l'heure de toute la dimension d'angoisse qui peut être accrue aussi par les recommandations médicales, hein, puisque maintenant, à mesure où on a accès à un savoir important, on peut être capable de dire aux femmes ce qu'il faut qu'elles mangent, ce qu'il faut surtout pas qu'elles mangent, ce qu'il faut qu'elles fassent et qu'elles ne fassent pas, pour ne pas mettre en danger ou en péril leur grossesse et la vie future de leur bébé. Et ça, même si évidemment, il ne s'agit pas de revenir à des périodes où on n'avait pas accès aux soins et au savoir médical, pour autant, ça facilite pas ce travail et ce processus de devenir parent et de devenir mère en l'occurrence, parce que ça conforte les fantasmes et donc l'angoisse qui est associée, les fantasmes de toute puissance. Alors, oui, peut-être quelques mots avant de... ça me permettra d'ailleurs de faire le lien avec la question de cette période-là pour l'homme. Juste quelques mots aussi de fœtus dont je vous parlais tout à l'heure comme d'un potentiel alien ou d'une continuité narcissique peu différenciée de la mère, dans la mesure où ça met les individus futures mères comme futurs pères en place de prendre la place des parents, on peut penser aussi que ce fœtus, il peut aussi être mis à la place d'un petit frère ou d'une petite sœur de l'enfance des parents. Donc on voit chez les femmes naître aussi une grande ambivalence à l'intérieur d'elles à l'égard de leur bébé, de leur futur bébé, et parfois même de l'agressivité, voire de la haine déjà, ce qui peut parfois être facteur de complications de la grossesse quand les enjeux de rivalité infantile émergent de façon trop importante pour les femmes. Alors, je disais que ça me permettrait de faire le lien avec la suite de mon propos au sujet de l'homme, où évidemment il s'agissait aussi de pouvoir traiter de ce que ça fait à un homme d'avoir sa femme enceinte et puis du coup d'être en train de devenir père. Voilà, parce que la question de la rivalité, elle est aussi au premier plan pour l'homme. Hein. Alors, rivalité à deux niveaux. Rivalité d'abord du côté de la question de la rivalité vis-à-vis des potentiels petits frères et petites sœurs. Ça, je vous en ai parlé il y a deux minutes. Mais surtout, la rivalité qui est liée au fait que, comme pour la femme, chez l'homme, les enjeux du bien sont réactivés par la grossesse. Et que toute la question de l'envie que j'ai développée tout à l'heure, plutôt du côté féminin, mais c'est aussi pour le garçon, de l'envie que les enfants développent à l'égard des organes génitaux de leurs parents et de leur puissance, la puissance qu'ils leur attribuent, et bien cette question-là, elle va aussi être mobilisée chez l'homme et réactivée par la grossesse de sa femme, puisque dans la mesure où sa femme est enceinte, c'est bien la preuve que lui n'a pas le phallus maternel et que du coup ça peut être un moment particulièrement éprouvant pour un homme que de se confronter à cette question. Parce que sans doute que ça lui fait vivre aussi une épreuve de castration importante. Et on observe la question de tout à l'heure qui portait sur la crise, hein, alors si on observe chez les femmes des décompensations telles que je vous les ai décrites, on observe aussi chez les hommes ce genre de phénomène, alors peut-être pas du côté, même si ça peut arriver, hein, d'une décompensation psychiatrique qui serait vraiment propre à la problématique de la naissance. Je veux dire, il n'existe pas d'équivalent de la psychose puerpérale chez l'homme par exemple, mais néanmoins on peut observer des formes de psychopathologie qui s'organisent au moment de la grossesse ou de l'accouchement. Alors ce qu'on va observer assez classiquement, ça va, alors j'allais dire dans des choses un peu normales du côté de la non-pathologie, on va observer très classiquement, et ça c'est quelque chose que peut-être dont vous avez l'expérience, mais le phénomène de Couvade, qui dit bien cette question de l'envie du phallus maternel, hein, c'est-à-dire ces hommes qui prennent du poids en même temps que leur compagne et qui prennent du ventre en particulier. Alors bon, ça c'est pour les aspects un peu sympathiques de la chose, mais il y a des périodes, ça peut être une période de crise très grave pour les hommes, hein, dans la mesure où on peut observer, ça peut être des moments où les hommes vont avoir des aventures, nouer des liens amoureux ou des relations amoureuses en dehors des liens avec leur la future mère. Donc ça peut conduire à des séparations dans le couple, hein. Donc là on voit en quoi cette question-là elle peut aussi toucher la question du couple et comment ça peut mettre le couple en crise. La grossesse d'une femme étant par définition aussi anxiogène pour l'homme, celui-ci peut être amené à désinvestir cette question pour aller investir d'autres liens où il se sentirait peut-être moins menacé par la question de la grossesse de sa compagne. Alors on peut observer aussi des hommes qui vont développer parfois jusqu'à des formes délirantes la conviction qu'ils ne sont pas le père de l'enfant, puisque ce qu'il y a aussi de particulièrement anxiogène pour un homme, c'est bien que la mère est certaine et que donc le père est incertain, et que c'est à la fois c'est très vrai et en même temps c'est fondamentalement angoissant que cette question-là. C'est l'idée qu'en plus, une femme, non seulement elle a un phallus du fait de sa puissance procréatrice, mais qu'en plus l'enfant, elle pourrait l'avoir fait avec un autre, mais que fondamentalement elle pourrait l'avoir fait sans homme du tout. Et que c'est aussi ça le sentiment important de castration que peuvent éprouver, l'angoisse importante de castration que peuvent éprouver les hommes à ce moment-là, c'est que finalement ils n'ont pas servi à grand-chose dans cette affaire-là, même si on sait bien que c'est pas vrai, mais voilà, c'est le fantasme qui peut être à l'intérieur de la psyché de certains hommes. Et on peut observer dans la clinique, ça va très très loin ces histoires-là, puisque maintenant par internet on a la possibilité de faire des tests de paternité qui sont un peu douteux sans doute, mais en frottant un petit bâtonnet sur la langue ou à l'intérieur de la joue du bébé et puis sûrement de la sienne, et puis on fait comparer les ADN qui sont extraits dans la salive, et puis on vous dit si oui ou non vous êtes le père de cet enfant. Alors quand même, pour vous dire deux mots de cette question-là, c'est quand même, vous le savez sans doute, que c'est quand même cette question-là qui est à l'origine du patriarcat, et qui est quand même le système qui organise nos sociétés, hein. Donc c'est pour dire à quel point cette angoisse, elle est prégnante, c'est le cas de le dire, chez les hommes. Dans la mesure où le patriarcat, c'est un système qui vise à contrôler, via le contrôle sur les femmes, à contrôler la descendance et la paternité, qui organise un système de parentalité qui est du côté de la transmission par le père du patronyme, et la filiation s'inscrit du côté du père, hein. Mais c'est bien parce que le père est incertain qu'on a besoin de l'affirmer haut et fort et d'affirmer une filiation du côté du père, hein, avec toute la question de la transmission du patronyme, etc., même si aujourd'hui ça tend à changer. Donc il faut contrôler les femmes, hein. La virginité avant le mariage, c'est pas juste comme ça, c'est pas une idée farfelue, ça vient du fait que, au moins, si on est sûr d'avoir été le seul homme à posséder sexuellement une femme, on est sûr que la progéniture qui sera issue de la relation sexuelle avec cette femme sera bien celle de l'homme qui a épousé cette femme. Donc, avant de se marier, il vaut mieux être vierge, et puis il vaut mieux sortir couvert, sans mauvais jeu de mots, allusion faite au voile et à toutes ces délicates attentions qui sont faites aux femmes. Tout ça donc pour les préserver du désir et bien sûr de la question de la convoitise et de l'envie d'aller voir ailleurs. Et donc de la possibilité de faire des enfants dans le dos de l'homme. Alors je voulais vous dire, vous citer une petite phrase issue d'un texte fort intéressant sur la paternité. Alors c'est pas un grand poète, c'est pas un grand philosophe, il s'appelle Renaud. Mais des fois on trouve beaucoup de vérité dans des paroles qui peuvent paraître futiles. Simplement, voilà, Renaud Séchamp, que vous connaissez, j'imagine, tous, qui a écrit une chanson très belle qui s'appelle « En cloque » et qui dit très bien cette question de l'envie chez les hommes, hein. Alors je vous le cite, je vous le chante pas, je vous le cite. « Quand je promène mes mains de l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing, ça bouge. Je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau, alors elle devient toute rouge. Parfois, ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. » Voilà, ça c'est la fin de sa chanson, et je crois que ça dit tout, beaucoup plus que beaucoup de thèses sur la question. Voilà, alors simplement pour terminer, vous voyez en quoi ces deux aspects-là que je viens de décrire, à la fois du côté de ce qui se passe chez l'homme et chez la femme, au moment où la femme tombe enceinte et donc est en passe de transformer l'homme et la femme, enfin par sa grossesse, de les transformer en parents. Donc je vous montrais en quoi ça pouvait être un facteur de crise à l'intérieur d'eux, enfin de façon intrapsychique, mais que la crise, évidemment, elle concerne aussi le couple. Hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même dans la clinique, on retrouve quand même beaucoup de ruptures des couples au moment d'une naissance. Voilà, avec sans doute des crises qui sont à ce moment-là voilà, facteurs de désorganisation plus que de réaménagement possible. Sachant que, évidemment, ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais le bébé dont je vous parlais, enfin quand je vous en parlais comme d'un rival potentiel, c'est vrai aussi que dans cette affaire-là, je vous le disais tout à l'heure, l'homme il peut avoir tendance à se sentir exclu, dans l'idée que la femme, bien qu'elle ait quand même, ne l'oublions pas et disons-le haut et fort, parce qu'aujourd'hui, les techniques de procréation médicale tendraient peut-être à nous faire oublier, mais on a toujours besoin d'un autre différent de soi pour faire des bébés. Bien que la femme ait besoin de cet homme-là, en tout cas, l'homme, il peut avoir le sentiment qu'elle s'est passée de lui et qu'une fois obtenu l'objet tant convoité, c'est-à-dire le bébé qui représente symboliquement le bébé du père, eh bien, elle pourrait avoir tendance à l'exclure du couple qu'elle forme désormais avec son bébé. Donc à la fois certaines femmes, on peut observer ça, certaines femmes qui forment un couple, et évidemment au début de la vie, pour un bébé c'est essentiel que sa mère puisse fusionner avec lui, mais parfois cette fusion elle dure et elle a tendance à exclure le père. Hein, on observe comme ça, je pense à des cliniques, des mamans dont je m'occupe, qui peuvent dire comme ça très simplement, hein, qu'elles évacuent leur compagnon de leur vie, hein, que quelque part, alors il y a cette idée que c'est intéressant d'avoir le même géniteur pour faire des enfants, mais que en dehors d'apporter sa semence à la contribution de la procréation, finalement le père il n'est pas plus important que ça. Et donc à la fois certaines femmes peuvent développer ce type de lien comme ça qui a tendance à exclure les pères, mais les pères eux-mêmes, peuvent aussi un peu s'exclure de cette fusion là, et puis avoir tendance à aller chercher ailleurs ce qu'ils ont le sentiment de ne plus trouver à l'intérieur de leur couple. Alors, parce que ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est très important, c'est que ce que je vous ai décrit du côté des remaniements et des réactivations des enjeux œdipiens et infantiles au cours de la grossesse, c'est que ce qu'on observe, qui est un phénomène assez classique dans les couples, c'est qu'on va observer un clivage, alors ce que Freud appelait un clivage de la vie amoureuse, c'est-à-dire que les individus étant devenus des parents et étant l'un pour l'autre le père et la mère ou la mère de leur enfant, ça va réactualiser tous les interdits oedipiens du côté du tabou de l'inceste notamment, et que ça va rendre la vie sexuelle et amoureuse extrêmement compliquée. Et donc ce qu'on observe assez classiquement autour de la naissance d'un enfant, c'est une disparition ou une diminution de la vie sexuelle telle que la menait jusque-là le couple qui n'était pas un couple de parents à ce moment-là, du fait ce collapsus, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais en tout cas de cette coïncidence forte entre la personne aimée et le père ou la mère qu'il ou elle est devenu. Et tout d'un coup, effectivement, les enjeux incestueux sont remobilisés de manière très forte, puisque ça devient quand même assez compliqué de pouvoir faire l'amour à un homme ou à une femme, dans la mesure où cet homme ou cette femme est aussi la mère ou le père de son enfant. Donc ce qu'on observe, c'est classiquement un clivage de la vie amoureuse, où on observe donc une dissociation entre d'un côté ce qu'on appelle le courant tendre, qui se destine à la mère ou au père, le compagnon de la personne concernée, le courant plus sensuel, qui peut éventuellement alors soit se destiner à d'autres ou se transformer, voire se sublimer, pourquoi pas. Voilà, je voulais terminer là-dessus, et puis évidemment insister aussi sur la question de la rivalité avec le bébé, que le père se sentant exclu peut se sentir aussi en rivalité avec le bébé qui lui prend sa femme, hein, mais que la rivalité avec le bébé, elle peut aussi se vivre de la part de la mère, hein, dans la mesure, enfin, en fonction du sexe de l'enfant et aussi de l'histoire de chacun des protagonistes. Cette question-là, elle est réactualisée, le bébé pouvant représenter, encore une fois, le petit frère ou la petite sœur de l'enfance qui nous a pris notre papa ou notre maman, et c'est ça, c'est à l'œuvre dans toute parentalité et dans toute naissance. Je voulais simplement terminer en ayant une petite pensée pour ces enfants tant désirés et si insupportables qui font de nous des parents et qui nous mettent dans des crises assez complexes du fait de la réactualisation des enjeux infantiles et oedipiens. Juste terminer pour dire que leur donner la vie à ces enfants-là, c'est aussi les mettre dans ce même circuit infernal, hein, et que donner la vie à un enfant, ça peut être aussi une manière pour un parent de s'affranchir d'une dette. Et là, voilà, je vous invite à aller lire à ce sujet les travaux de Monique Bidlowski, qui a travaillé sur la question de la dette de vie et qui traite de la question, voilà, de la parentalité et de la naissance autour de cette question de la dette, c'est-à-dire que donner la vie, c'est mettre un enfant en dette, hein, et que donner la vie, c'est soi-même voilà, s'affranchir de cette dette vis-à-vis de ses parents. Et je terminerai juste avec cette citation de Marc Chagall qui vous laissera sans doute réfléchir. « L'amour de ma mère pour moi était si grand que j'ai travaillé dur pour le justifier. » Voilà sans doute le moteur qui fait que voilà, l'humanité continue de progresser et que chacun, à son niveau, essaie de se surpasser pour justifier de l'amour de ses parents et de la dette de vie qu'il a reçue en recevant la vie. Voilà. Même pas regarder là, mais...